Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore salués. Nous sommes toujours le temps de Pâques et nous continuons à méditer sur ce qui s'est passé après la résurrection. Et nous lisons ce matin dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean. Je lis à partir du verset 1. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples à la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon Pierre, Thomas, celui qu'on appelle Jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous venons avec toi, nous aussi. Ils sortirent et montèrent dans le bateau. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit : Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ? Ils lui répondirent : Non. Alors Jésus leur dit : Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C'est le Seigneur ! Et quand Simon Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il attacha son vêtement à la ceinture, car il était nu, et il se jeta à la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la terre, à 200 coudées environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit : Venez déjeuner. Aucun des disciples n'osait lui demander : Qui es-tu toi ? Car il savait que c'était le Seigneur. Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il s'était réveillé d'entre les morts. Plusieurs textes nous montrent Jésus le ressuscité qui se rend présent aux disciples, mais ceux-ci ne le reconnaissent pas. Par exemple, dans Jean chapitre 20, Marie de Magdala prend Jésus pour le jardinier. Je lis le texte. Après avoir dit cela, Marie se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, etc., etc. Un autre texte que nous connaissons bien, je pense, les uns les autres, c'est le texte de Cana. Des disciples d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et enfin, notre texte. Jésus se tint debout sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils ne le reconnaissent pas ? Marie est certaine que Jésus est mort. Si son corps a disparu, c'est qu'il a été enlevé. Cet homme qu'elle voit ne peut pas être Jésus. Et elle imagine que c'est le jardinier. Les disciples d'Emmaüs sont certains que Jésus est mort. Bien sûr, quelques femmes ont raconté que des anges leur sont apparus et que ces anges ont dit que Jésus était vivant. Mais quand les disciples sont allés au tombeau, ils ont vu le tombeau vide. Ils n'ont pas vu Jésus. Et puis à l'époque, où se passe notre récit, la parole des femmes n'a pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, elles ne peuvent pas participer à un procès. Leur parole n'est pas valide. Les sept disciples, eux, ils vont à la pêche. Pierre et les fils de Zébédée étaient des pêcheurs de poissons avant que Jésus les appelle. Et dans Jean 21, ils reviennent à leur vie d'avant. Et ils vont à la pêche. Jésus leur est bien apparu au chapitre 20. Il les a même envoyés en mission, mais au chapitre 21, c'est comme si rien n'avait vraiment changé. Ils retournent à la pêche, à leur métier d'avant, et préoccupés par la pêche, qui en plus n'est pas très fructueuse, ils ne reconnaissent pas Jésus debout sur le rivage. Trois récits différents, trois situations de foi différentes. Et le même résultat, Jésus n'est pas reconnu. Et je me dis, ils ne reconnaissent pas Jésus et pourtant il est là. Et je me demande combien de fois dans ma vie, je n'ai pas vu Jésus présent, Jésus à l'œuvre alors qu'il était là. Il ne s'agit pas tellement pour nous de le voir avec nos yeux comme l'ont fait les disciples entre Pâques et l'Ascension, mais de discerner sa présence et son action, ici et maintenant. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de reconnaître Jésus ? Je propose quelques pistes. La première, une vision trop restreinte, trop limitée de Jésus. Et Jésus, les disciples ne croient pas qu'il est vivant. Ben, s'il n'est pas vivant, il n'est pas visible. Hein. Il est quelque part, on ne sait pas où. Le corps est quelque part, on ne sait pas où. Thomas est l'exemple le plus symbolique. Mais il n'est pas le seul. Est-ce que nous croyons que Jésus est présent et à l'œuvre aujourd'hui dans ce monde, dans l'Église, dans ma vie? Ou est-ce que je suis pris dans une vision trop restreinte de la foi, trop traditionnelle, en évitant ce qui pourrait me perturber? Parce que Jésus ressuscité, c'est quand même assez perturbant, quand on lit les textes. Deuxième piste, pour être une foi trop centrée sur ma personne et pas assez sur Dieu. Est-ce que je suis pris dans mes problèmes de vie ou dans mes rêves, attendant que Jésus règle tout à coups de baguette magique? Est-ce que je crois et est-ce que je prie pour que Dieu soit avec moi, alors que la question première dans l'Évangile est plutôt de savoir si moi je suis avec lui et dans son projet? Une foi trop égocentrée nous empêche de voir le Christ. Il y a aussi le confort des habitudes, des connaissances, des tâches que je maîtrise ou que je crois maîtriser. Je fais des choses qui me vont. Comme retourner à la pêche pour les disciples. Peut-être qu'il y a un problème qui complique ou bloque ma vie spirituelle. Le chapitre 20 était centré sur la foi. Le chapitre 21 est centré sur la communion. À établir, ou plutôt à rétablir. Jésus prépare un repas. Quand les disciples reviennent de leur pêche miraculeuse, ils voient un feu de braise avec du poisson dessus, et ils voient aussi du pain. Et Jésus va inclure du poisson pêché par les disciples dans le repas. C'est le premier repas, c'est le premier temps de communion autour d'une table, si je puis dire, depuis la scène. Pourquoi est-ce tellement important? C'est qu'il y a une espèce de contention entre Jésus et les disciples qui pèse sur les disciples. Ils ont tous abandonné Jésus lors de son arrestation. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu, toi ?» Il savait que c'était le Seigneur, mais il préfère attendre que le Seigneur parle le premier. Il savait, mais il n'osait pas parler. Il est même un disciple qui a un problème plus grave que les autres, car il a renié Jésus trois fois, et dans la suite immédiate du texte que j'ai lu, il aura droit à une rencontre spéciale avec Jésus pour mettre les choses au point. Le repas de la communion, sans mots supplémentaires, souligne que pour Jésus, les fautes des disciples sont pardonnées, et que la communion est rétablie. Et nous avons tous besoin de temps en temps de mise au point, de temps d'accueil, de recentrage et de pardon pour nos cheminements boiteux. On pourrait sans doute rallonger la liste des choses qui nous empêchent de reconnaître Jésus, mais passons au point suivant. La bonne nouvelle de la résurrection, c'est que Jésus le ressuscité se fait connaître malgré l'aveuglement des disciples. Waouh, s'il ne l'avait pas fait, ils resteraient tous aveugles. Hein. Heureusement que Jésus se manifeste pour qu'ils le reconnaissent quand même. Et il le fera à chaque fois d'une manière différente. Marie prend Jésus pour le jardinier, nous l'avons vu. Alors Jésus décide de l'appeler par son nom. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». La parole de Jésus, l'initiative que prend Jésus en lui parlant, permet à Marie de le reconnaître. Avec les pèlerins d'Emmaüs, Jésus va agir en deux temps. D'abord, il corrige leur fausse compréhension de sa mort. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans la gloire ? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Mais une meilleure théologie, ça ne suffit pas. Il faut encore une expérience de rencontre plus profonde, et cela va se faire un peu plus tard, autour d'une table, encore une fois. Pendant qu'il était à table avec eux, Jésus prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Le geste de rompre le pain et de le donner rappelle aux pèlerins d'Emmaüs la scène. Et d'un coup leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Dans notre texte, Jésus se révèle à travers une expérience qui commence par un échec et se termine par un miracle. Les disciples sont allés pêcher, comme c'est le métier de plusieurs, comme on l'a dit avant, mais c'est l'échec qui ne prennent rien. Mais paradoxalement, l'échec leur permet d'écouter la parole de Jésus qui leur dit de faire autrement et leur adresse une promesse. Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez. Ils font ce que Jésus dit, et c'est le miracle. Ils auraient pu ne pas écouter, et peut-être qu'il ne serait rien passé. Peut-être que Pierre aurait pu dire, et les fils de Zébédée avec lui, que nous, on s'y connaît en pêche, pas besoin de tes conseils. T'es qui, toi, pour nous parler ainsi ? Mais ils ont obéi, et ils vivent une expérience qui rappelle une autre pêche miraculeuse, racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Et c'est le miracle qui fait que Jésus est reconnu par les disciples. La bonne nouvelle de Pâques, c'est que non seulement Jésus est ressuscité, mais qu'il va à la rencontre des disciples pour les sortir de leur aveuglement, de leur culpabilité, de leurs impasses. Jésus vient au secours de ses disciples car il est engagé vis-à-vis d'eux. Il est lié à eux, et même s'ils n'ont pas été fidèles quand ils l'ont abandonné, Jésus demeure fidèle et vient à leur rencontre. Chaque fois que nous ne nous sentons pas très bien, nous ne nous sentons pas très à l'aise, nous passons par un creux, on aimerait se rappeler ça. Jésus vient à notre rencontre, sans jugement, juste pour nous rétablir, nous fortifier. Entre la résurrection et l'ascension, Jésus va se manifester de diverses manières à ses disciples, comme on l'a vu dans notre texte, mais toujours d'une façon courte, limitée, le temps d'une parole, d'un repas, d'un entretien. Après, il disparaît. Il disparaît car il s'agit, pour le croyant, de vivre non par la vue, mais par la foi. D'ailleurs, à la fin du chapitre 20 de l'évangile de Jean, Jésus dit à Thomas, « Parce que tu as vu, tu es convaincu, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et donc, l'apprentissage de la foi, c'est de vivre sans le voir, sans le ressentir, sans être avec lui de façon visible en permanence. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sans ressources pour rester connecté à Jésus, pour discerner sa présence, même s'il reste invisible. Je voudrais passer rapidement en revue quatre points qui organisent et structurent la vie de foi de la communauté chrétienne et des croyants, et qui nous aident à discerner la présence de Jésus. La première, c'est de lire la Bible pour y discerner le projet de Dieu pour le monde, et toujours mieux comprendre la place de Jésus dans ce projet. Je relis ce que Jésus dit aux pèlerins d'Emmaüs. il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon nom dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Non, ça c'est ce que Jésus dit aux disciples réunis. Un peu plus tard, après Emmaüs, Jésus se montre aux disciples réunis et leur dit ça. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. En Jean 20, les réactions sont diverses devant le tombeau vide, car selon le texte, ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Une bonne compréhension du message de la Bible, qui nous présente le projet de salut de Dieu pour le monde, nous permet de mieux discerner la présence et l'action de Jésus. Deuxième point, c'est la communauté en prière. Il y a la résurrection, l'ascension et enfin la Pentecôte. Mais après l'ascension et avant la Pentecôte, il n'y a plus d'apparition de Jésus. Mais les disciples ne retournent pas à la pêche ou à leur vie de tous les jours. Ils vont d'abord rester ensemble, et pas seulement les 11 disciples, les 11 apôtres. Il y a aussi, nous dit les Actes des apôtres, il y a les femmes, et aussi Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus, et d'autres. Ils sont ensemble jusqu'à 120 personnes. 120 personnes qui sont en communauté, en début de communauté. Et que font-ils de particulier? Ils prient. Ils prient. Et même, ils persévèrent dans la prière, c'est leur activité principale. Ils prient parce qu'ils savent que l'Esprit va venir et ils se préparent. Ils se préparent. Et dans cette prière, c'est aussi un temps de discernement. Les disciples sont convaincus que dans la préparation, il faut qu'ils règlent la question du remplacement de Judas. C'est un certain Matthias qui sera tiré au sort. Parce que la prière des apôtres, c'est une prière qui cherche la volonté de Dieu et qui demande à Dieu de leur montrer ce qu'ils doivent faire. On peut imaginer que dans ce temps, entre l'ascension et Pentecôte, dans ce temps de prière, de communauté réunie, il s'est passé bien d'autres choses dans le groupe. Peut-être des temps de réflexion sur comment vivre l'Église. Et qu'est-ce que Jésus nous a encore dit sur comment nous devons vivre ensemble à l'Église? Peut-être aussi des temps de demande de pardon entre des disciples qui s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand. Entre Pierre qui a dit tout le monde, Jésus, ils peuvent tous te lâcher, sauf moi. Ce qui était sympa pour les autres. Ils ont probablement clarifié toute une série de choses entre eux. Et ainsi, ils se sont préparés à la venue du Saint-Esprit que Jésus allez leur envoyer. La prière qui cherche avec persévérance la volonté de Dieu pour ici et maintenant, pour l'Église réunie comme pour chacun des frères et sœurs, cette prière fait la différence en ce sens qu'elle nous aide à discerner la présence du ressuscité et ce qu'il nous montre ici et maintenant. Si nous ne sommes pas dans cette prière, dans cette demande, Jésus ne va pas nous obliger à faire quoi que ce soit. Il ne nous veut pas comme des marionnettes qu'il manipulerait, mais comme des partenaires d'alliance impliqués et actifs. Après la Bible et la prière, la troisième chose qui va structurer la vie de foi, c'est l'envoi en mission. L'envoi en mission, nous le trouvons dans Jean, nous le trouvons dans la fin de Matthieu. Cet envoi en mission rejoint chaque église dans sa réalité, avec ses forces et ses faiblesses, et prend évidemment différentes formes selon les églises. Il ne s'agit pas d'imiter ce qui se fait ailleurs, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire là où on est, en tant qu'église et en tant que personne. Dernier point qui structure la vie de foi, entrer, demeurer et partager l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. L'expérience de l'amour, les disciples le font déjà parce que Jésus la prépare à manger et communie avec eux. Et rétablit la communion qui avait été perturbée par leur abandon. Il nous faut demeurer dans cet amour, demeurer branché sur la source de l'amour, et le laisser nous aimer parce que nous avons besoin d'amour, et plus particulièrement besoin de l'amour de Dieu, dans nos vies. Nous avons besoin que cet amour nous aide dans nos fragilités personnelles, dans nos difficultés, dans les moments où nous nous sentons dépassés, dans ce temps où, avec les restrictions sanitaires, nos vies sont limitées, nos relations sont limitées, et ça perturbe notre réalité intérieure. Nous avons besoin d'accueillir cet amour et d'en vivre, et puis aussi de le propager à notre tour, en développant la communauté de l'amour et en aimant le monde et ses habitants. Voilà les quatre points, il y en aurait d'autres évidemment, que nous voyons quand nous lisons les textes qui parlent de Jésus qui apparaît à ses disciples et du temps qui les sépare de la Pentecôte. À nous de voir comment nous impliquer dans ces quatre points. Alors, si nous le sommes, nous discernerons, nos yeux seront ouverts et nous discernerons les ressuscités à l'œuvre dans nos vies, dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui. Amen.